Le fantassin. Où êtes-vous, Louis? Où êtes-vous et qu'ont-ils fait de vous? Vous ont-ils brûlé? Vous ont-ils enterré? Peut-on encore venir vous voir? Et si oui, où? Où ça? À Paris? En province? Où êtes-vous et comment dois-je vous imaginer à présent? Sous une dalle? Au fond d'un caveau? Dans une urne? Habillé, allongé, maquillé, et bientôt décomposé, ou en cendres, ou semé, dispersé, épandu, perdu. Louis, vous étiez si beau. Qu'ont-ils fait de vous? Qu'ont-ils fait de vous et qui sont-ils d'ailleurs? Qui sont ces gens dont vous ne parliez jamais? Aviez-vous une famille? Oui, bien sûr. J'emprunte chaque jour un boulevard qui porte votre nom. J'ai oublié quel était votre lien de parenté avec ce victorieux maréchal d'Empire, mais vous aviez une famille, évidemment. Laquelle? Qui sont-ils? Que valent-ils? Les aimiez-vous? Vous aimaient-ils? Ont-ils respecté vos dernières volontés? Quelles étaient vos dernières volontés, Louis? Bordel, Louis! Bordel, tu fais chier! Séoul, 10h du soir. Je suis cantonné dans une chambre d'hôtel au 41e étage d'une tour tout juste sortie de terre. Je crois que j'en suis le premier occupant. Ceux qui ont posé la moquette ont oublié leur cutter, et les parois de la douche sont toujours recouvertes d'un film protecteur. J'arrive de Toronto, où j'ai enchaîné rendez-vous sur rendez-vous pendant 3 jours après 2 visites éclairs sur les sites de production, l'un à Varsovie et l'autre dans la banlieue de Vilnius. J'ai accumulé tant d'heures de décalage dans un sens, puis dans l'autre, que mon horloge biologique n'a plus aucune prise sur quelque réalité que ce soit. Je tiens seulement. Je tiens. En cherchant une note de travail pour un commissionnaire de la Tao Tanglin avec lequel je dois petit déjeuner demain, je viens de retomber par hasard sur ce fichier, sans titre 1, dans les entrailles de mon ordinateur. Je ne me souvenais plus avoir écrit ces mots et j'ai même du mal à croire que j'en suis l'auteur. Je venais d'ouvrir votre cadeau. J'étais malheureux. J'avais bu. Comme un trou. Louis. Me revoilà. Plusieurs mois ont passé et me revoilà aujourd'hui plus calme et moins grossier. Mais je me pose toujours les mêmes questions, vous savez. Je me pose les mêmes questions et j'en arrive toujours à la même conclusion. Vous me manquez, l'ami. Vous me manquez terriblement. Comment aurais-je pu imaginer que vous me manqueriez autant? Non, ce n'est pas une expression. Je ne dis pas « vous me manquez » comme je viendrais me plaindre à vous d'un manque de sommeil, de soleil, de courage ou de temps. Je vous le dis comme s'il me manquait une part de moi-même. La meilleure, peut-être. La seule paisible et la plus bienveillante. La mieux veillante. Vous me veillez aujourd'hui comme vous aviez veillé sur moi il y a 2 ans. 2 ans, Louis. 2 ans. Comment est-ce possible d'avoir mis tant de vie dans si peu de jours? Membre fantôme. Hallucinose, pathologie, non féminin, perception illusoire et parfois douloureuse d'un membre amputé, douleur que ravivent le stress, l'anxiété et les changements météorologiques. Voilà ce que je ressasse quand je pense à vous. C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est ridicule. En plus d'être ma boussole, vous seriez devenu mon baromètre. À la moindre contrariété, à la moindre oscillation, je me tâte et cherche sur moi la preuve de votre absence. Je ne cesse de vous chercher, Louis. Votre mort est comme un coin que l'on aurait enfoncé dans mon crâne, et au moindre doute, bam! Une masse tombe. Bam! Je finirai ouvert en deux. J'écris n'importe quoi. J'écris n'importe quoi de peur de dire n'importe quoi. 2 ans. À peine. Comme c'est court. Comme c'est court et comme je regrette ces années perdues. Nous aurions pu nous rencontrer bien plus tôt. Mais nous étions si pudiques, vous et moi. Si pudique, si distant, si occupé, si préoccupé, si con en somme. J'ai 1000 problèmes plus urgents à régler, mais j'ai envie d'être avec vous. J'ai envie de vous parler, de vous revoir, de vous entendre, de me recaler. Le moment est bien choisi. Je suis, vous disais-je, aussi peu vivant que possible. Louis, ne bougez pas. Je vais me servir un verre et je reviens. Vous étiez avocat, je dirige une entreprise, je la dirige toujours. Nous étions voisins de palier et nous nous croisions parfois devant les portes de l'ascenseur ou dans le hall de cet immeuble cossu du 16e arrondissement, dont nous nous partagions le dernier étage. Nous nous croisions, mais nous n'échangeions guère qu'un vague signe de tête distrait et fatigué. Baudets que nous étions, mulets que nous étions, bêtes de somme que nous nous étions appliqués à devenir, chacun ployant sous le poids de son importance et des énormes dossiers qu'il avait le tort de rapporter dans le cercle de son intimité. J'avais commencé par écrire « à la maison », qu'il avait le tort de rapporter « à la maison ». Et puis je me suis ravisé. Avais-je une maison? Aviez-vous une maison? Je l'ai remplacé par « le cercle de son intimité ». Seulement c'est plus grotesque encore. Le cercle de notre intimité. Quelle foutaise! Et pourquoi pas celui du Racing ou de l'Interallié pendant que j'y suis? Vous et moi n'avons jamais eu plus d'intimité que de cartes de membre à un quelconque cercle privé, si sélectif fut-il. Non pas que les occasions nous aient manqué, mais nous n'avions pas le temps, mon Dieu. Nous n'avions pas le temps. Ni pour la chasse, ni pour le golf, ni pour le pouvoir, et encore moins pour l'intimité. Intimité. Le titre d'un magazine pour shampouineuses, non? Quant à celui de foyer, en ce qui me concerne, il était d'abord fiscal et servait à calculer le montant de mon imposition sur le revenu, alors que pour vous qui viviez seul, je ne sais pas. Il évoquait le cœur des théâtres et des opéras, j'imagine. Les travées, les coursives, les entractes. Vous sortiez beaucoup et... Non, je n'imagine rien. Je ne sais pas. Vous étiez si secret. Il m'est arrivé souvent, quand je m'absentais et que je devais attraper les premiers vols du matin, de vous croiser bien avant l'aube. Je vous apercevais alors furtivement, tandis que mon chauffeur s'empressait d'ouvrir pour moi la portière d'une voiture surchauffée, et cette vision de vous, si beau, si pâle, les mains dans les poches, les cols relevés, le visage flouté par la nuit et le nez à moitié enfoui dans vos foulards, me tenait longtemps compagnie. Mes trajets d'aéroport, mes heures d'attente, mes plans de bataille, mes troupes à rassembler, mes investisseurs à rassurer, mes partenaires à convaincre, mes découragements, les leurs, mes doutes, les leurs, ma réputation, ma dureté, ma fatigue, mes migraines, mes maux de ventre, mes chambres d'hôtel toujours vides, ma famille toujours sur messagerie, mes décalages incessants, ma pharmacie de combat, mes insomnies, toute cette vie de fantassin du capitalisme, toute cette vie de bras de fer, de lutte, de passion que j'ai choisie, pour laquelle je me suis battu, que je respecte même, oui, que je respecte, mais qui m'épuise, et de plus en plus depuis votre disparition, ne tenait, ces fois-là, que dans le souvenir de votre élégante silhouette. De votre silhouette, de vous, de votre liberté, de ce que je prenais pour de la liberté. Une femme cultivée à laquelle je venais justement, et je vous dirai plus tard dans quelles circonstances, de raconter ses chassés-croisés matinaux en lui précisant l'étrange réconfort qu'il me procurait, m'a rétorqué, moqueuse. On dirait Paul Morand interpellant Proust. Je n'ai pas relevé. Je préfère encore passer pour un pédant que pour un crétin. Elle ne s'est pas laissée berner. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant un long moment, le temps de me faire comprendre que j'étais. Eh oui, et si, hélas, et la preuve en était ces longues secondes même, un pédant de la pire espèce, un crétin de pédant. Puis, ceci étant entendu, elle a approché son visage du mien et a ajouté de sa belle voix grave « Proust, à quel rout allez-vous donc la nuit pour en revenir avec des yeux si las et si lucides? Et quelle frayeur à nous, interdite, Avez-vous connu pour en revenir si indulgent et si bon ? Silence. Elle. C'était un peu cela, non ? Moi. Elle. Vous ne dites rien ?
Je ne disais rien parce que... Bam ! Votre bonté, Louis. Votre bonté. La nuit est tombée. La pollution et les lumières de la ville n'y prêtent aucune attention, mais moi qui suis si près de vous, dans ma chambre fantôme à presque 200 mètres du sol, vous n'imaginez pas combien je suis heureux à l'idée de passer cette soirée en votre compagnie. Comme autrefois. Il est presque minuit. Je viens de me relire. 1394 mots. 2 heures à tâcheronner et tout un minibar pour sortir 1394 mots. Quel exploit! Et 1394 mots qui ne veulent rien dire en plus. Qui ne comprennent rien. Qui n'expriment rien. Qui répètent seulement « ta gueule, cahier ponctueux, ta gueule, va te coucher ». Tu tournes autour du pot, tu délayes, tu fais le beau, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas t'exprimer, tu es incapable d'exprimer le moindre sentiment, incapable. Tu n'as jamais su, ça ne t'intéresse pas. Que c'est laborieux tout ça, que c'est laborieux et que c'est prétentieux. Un coin que l'on aurait enfoncé dans mon crâne. Et pourquoi pas un peu de Proust pendant qu'on y est ? Allons, allons, rajuste-toi, je te prie. Gobe tes somnifères, assomme la bête et tombe. Un coin que l'on aurait enfoncé dans ton crâne. Mais mon bonhomme, il n'y a rien qui rentre dans ton crâne. Rien. Et dans ton gras, encore moins. Et tu vois, même là, tu dis gras pour ne pas dire cœur, tellement ce mot t'indispose. Cœur, cahier, cœur. Tu sais bien, ce viscère qui s'active à l'intérieur, cette pompe, ce moteur. Éteins cet ordinateur et va te coucher. Va prendre des forces. Va prendre des forces pour pouvoir continuer à tirer tes wagons demain matin. Silence, là-haut, silence ! J'ai bu. Je bois. Tout va s'arranger. Il le faut. Il faut que ça sorte. C'est comme une saignée. Il faut que j'en finisse avec vous. Il faut que je vous enterre, moi aussi. Que je vous enterre ou que je vous disperse, peu importe, comme vous voudrez, comme vous l'aurez voulu. Mais il faut vraiment que j'en finisse avec ce deuil dont votre discrétion m'a privé. Je dois vous faire revivre une dernière fois pour pouvoir vous dire enfin au revoir. Vous dire au revoir, vous laisser reposer en paix et être de nouveau capable d'ouvrir votre cadeau sans pleurer comme un veau. Je disais plus haut que nous étions réservés l'un et l'autre et que nous ne nous adressions qu'un hochement de tête courtois quand nous nous croisions dans les parties communes de notre immeuble, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Nos souliers, Louis, nos souliers étaient plus souples que nous et ce sont eux, souvenez-vous, qui ont fait le premier pas. Vous et moi partageons cette faiblesse coupable, les chaussures. Et ce n'était pas seulement un salut que nous nous adressions, c'était aussi un coup d'œil en tapinois. Nous ne nous toisions pas. Nous profitions de nos esquives pour vérifier qu'une chose, au moins, dans ce monde insensé, tenait encore la route. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le voisin d'en face portait toujours des chaussures coupées et assemblées dans une bonne maison et impeccablement cirées. Quel réconfort, n'est-ce pas ? Oui. Quel réconfort ! Réconfort impossible à concevoir pour qui ne connaît pas le plaisir du talon qui glisse sur la corne d'un chausse-pied de bon matin, du lassage parfait qui vous tient l'âme aussi bien que la jambe, d'un bout fleuri qui met un peu de fantaisie au bas de costume qui ne s'en autorise aucune, d'un cousu norvégien qui vous donne l'illusion d'être inusable en plus d'être élégant. D'une patine qui en dit plus sur vous et votre vie passée que vous ne sauriez jamais l'exprimer vous-même, ou encore du bois des embauchoirs que vous ne pouvez vous empêcher de caresser avant de les enfourner dans un soulier fourbu et qui aplanissent aussitôt les cassures d'une empeigne et d'une journée également malmenée. Vous et moi savions cela, et nous savions gré mutuellement de le savoir. Pour fugaces qu'ils fussent, nos coups d'œil n'en étaient pas moins reconnaissants. Le coup d'œil entendu du connaisseur, du connoisseur only, qui reconnaît son père à ses souliers doublés de celui de l'homme réservé qui exprime maladroitement sa gratitude. L'infime sourire caché dans l'infime hochement de tête et qui dit à peu près « Merci, cher Corel Légionnaire, merci. Je vous bénis. » Le tout venant en basket prouverait sûrement que j'en fais trop, mais vous et quelques autres m'écoutez sans ciller. Une belle chaussure, Louis, de belles pompes, un beau derby, un joli mocassin, une belle boucle, une paire de bucks immaculés, une bico cuir et boxe, un embauchoir en bois d'aulne, un veau velours moiré, un cordovan qui couine en pliant, un glaçage beau comme une laque du Japon, une crème à la cire de Carnoba. Ah, mon Dieu, que c'est beau! Panoplie de tauliers oblige, vous ne m'avez jamais croisé que chaussé de Richelieu noir à bout uni ou droit ou, à la rigueur des rigueurs, un vendredi sans encombre annoncé, à bout droit fleuri, quelle folie! Mais vous, et surtout quand je vous ai mieux connu, que d'émotions vous m'avez procuré! Que d'émotions! Que de discussions! Que de débats animés! À propos d'un modèle plutôt qu'un autre, d'une faute de goût plutôt qu'une autre, d'un bottier hongrois plutôt que viennois et viennois plutôt que new-yorkais, d'un devis, d'une folie, d'un renoncement, d'un cordonnier établi au diable, de la douceur d'un vieux chiffon doux ou de la hauteur des poils d'une brosse à lustrer. Mais combien d'heures ça nous a tenu, toutes ces questions existentielles? Combien? Il me semble que nous n'avons jamais parlé que de cela. De godasses, de nos merveilles de godasses, à cirer, à fantasmer ou à donner à ressembler, et que, ce faisant, nous nous sommes beaucoup dévoilés l'un à l'autre. Dans une vie, il y a les copains de classe, les compères de fac, les poteaux de régiment, les relations de travail, les bons camarades, les vieux amis, les Montaigne et les La Boétie, et puis il y a des rencontres comme la nôtre, et qui sont d'autant plus inespérées qu'elles ne reposent sur rien, sur aucun passé commun et qui, justement à cause de ce rien de commun en commun, donne libre cours, sous couvert de toute autre chose, ici les chaussures d'homme, aux plus grands abandons. Rien ne se dit, tout s'entend, ou l'invisible butin des amitiés de contrebande. Mais je vais trop vite, je vais trop vite. Là, nous ne sommes que dans le hall d'entrée ou la cage d'escalier et nous matons nos bouts en douce alors que notre première vraie rencontre a eu lieu sur notre palier et que je me tenais ce soir-là, que je tanguais plutôt, en manche de chemise et pieds nus devant vous. C'était il y a un peu plus de 2 ans, vers la fin décembre, quand les jours sont si courts et que le manque de lumière, en plus de l'angoisse des bilans comptables, des commissaires aux comptes et des fêtes de famille, nous rend tous si vulnérables. J'ai toujours travaillé comme un chien, mais plus encore à cette époque. C'était en pleine crise du brut, et j'avais l'impression d'être ce personnage de cartoon à la Tex Avery qui s'épuise à boucher des fuites en cascade en courant comme un pauvre diable d'une catastrophe à l'autre sans jamais rien colmater nulle part. Des déplacements en tous sens, des réunions interminables et d'âpres parties de bonneteau avec des banquiers sans talent me tenaient lieu de rustines, de chalumeaux et de bouchons de liège. Je n'entre pas dans les détails car vous les connaissez, Louis. Je vous ai raconté tout cela. Je vous l'ai raconté bien plus tard, quand le gros de la tempête était passé et que vous m'avez obligé, sans jamais m'obliger à rien, à la revivre de vive voix pour comprendre. Comprendre ce qui m'était arrivé. Comprendre ce que j'avais perdu et surtout, toujours selon vous, comprendre ce que j'avais gagné. Pour tout vous avouer, je ne vous ai jamais très bien suivi sur ce point. Il me semble que notre amitié mise à part, je n'ai pas gagné grand-chose dans cette pénible histoire. Mais bon, peu importe. Dans ces cas-là, vous me rétorquiez toujours. Soyez patient. Soyez patient. Eh bien, écoutez, cela tombe bien. Aujourd'hui, vous êtes mort, je n'ai plus de vie de famille et je travaille beaucoup plus qu'avant, donc vraiment, de la patience, j'en ai. je devais m'envoler pour Hambourg. Je m'étais levé très tôt et Ariane est entrée dans la salle de bain pendant que j'étais en train de me raser. Elle s'est assise dans mon dos, sur le bord de la baignoire. Parce qu'elle portait une chemise de nuit claire, parce que les manches du gilet qu'elle m'avait emprunté étaient trop longues et la privaient de main, parce que ses pans n'étaient pas boutonnés mais croisés sur son cœur, et parce qu'elle se serrait dans ses bras en se balançant doucement d'avant en arrière, la tête baissée et les cheveux défaits, j'ai eu cette vision affreuse d'être confronté au reflet d'une folle, d'une aliénée mentale en camisole de force. Mais non, si elle se tenait ainsi, c'était pour se corseter, pour être sûre de rester bien droite quand elle relèverait enfin la tête, et ce léger balancement n'avait rien de névrotique. C'était même tout le contraire, au contraire. Une prise d'élan. Je repense très souvent à cette méprise, Louis. Il me semble que... le dégât de ma vie est tout entier dans ce miroir embué. J'abîme les gens que j'aime en les réduisant toujours à plus défaillants que moi. Ariane n'avait rien d'une folle ce matin-là. Elle rassemblait simplement ses forces en silence pour se donner du courage. Je ne comprends jamais rien. C'était elle, la toute-puissante. C'était elle. Je lui ai demandé si je l'avais réveillée. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, et comme je ne réagissais pas, l'avais-je seulement écoutée. Elle a ajouté tout bas qu'elle s'en allait, qu'elle allait partir avec les filles, qu'elle allait emménager dans un appartement 2 rues plus loin, que je pourrais continuer à les voir quand je voudrais. Enfin, quand tu pourras, a-t-elle rectifié dans un rictus amer, mais que voilà, c'était la fin du voyage. Qu'elle n'en pouvait plus, que je n'étais jamais là, qu'elle avait rencontré quelqu'un, un homme attentionné, qui prenait soin de ses enfants et en avait la garde 1 semaine sur 2, qu'elle n'était pas sûre d'être très amoureuse, mais qu'elle avait envie d'essayer cette vie-là pour voir. Pour voir si ce serait plus doux, plus léger, plus simple. Qu'elle avait pris cette décision pour les filles autant que pour elle. Que la vie ici était devenue trop difficile. Que j'étais toujours absent. Même quand j'étais là. Surtout quand j'étais là. Que mon stress les avait toutes contaminées et qu'elle avait envie d'une autre enfance pour Laure et Lucie. Que le mari de la gardienne viendrait chercher ses cartons dans la soirée, qu'elle ne prendrait rien d'autre que ses vêtements, ceux des filles, quelques livres, quelques jouets et la clé de la maison de Calvi que je lui avais offerte pour ses 40 ans, qu'il n'était pas question de divorce pour le moment, qu'elle partait avec Mako, la nounou femme de ménage, mais que cette dernière commencerait ses journées en venant ici et que je serais donc comme à l'hôtel, puisque j'aimais tant ça, avec un lit et des sanitaires refaits à blanc chaque matin. Qu'elle continuerait à utiliser notre compte commun, mais pour les enfants uniquement, qu'elle avait de l'argent et qu'elle n'avait pas envie d'être entretenue par moi, qu'elle serait toujours arrangeante vis-à-vis des filles, que je les prendrais quand je voudrais, et aussi longtemps que je voudrais, mais que pour ces vacances-ci, lesquelles, et je l'ignorais sûrement, commençaient dès ce soir, c'était déjà tout vu. Elle les emmenait passer 15 jours au soleil avec elle. J'ai attrapé une serviette, je me suis tamponné le visage, et quand je me suis enfin retourné, elle a dit « Tu sais pourquoi je te quitte, Paul ? Je te quitte parce que tu ne t'es même pas coupé. Je te quitte parce que tu es le genre d'homme à qui on peut annoncer tout ça et qui s'en sort sans la moindre égratignure. Tu es un monstre, Paul Caillé-Pontieux. Un gentil monstre, mais un monstre quand même. » Je n'ai rien répondu. C'était une vieille lame et j'étais déjà en retard. Je me suis arrangé pour rester pendu au téléphone jusqu'à la porte d'embarquement, mais quand j'ai réalisé que l'avion aurait au moins 50 minutes de retard, manque de visibilité, j'ai tout coupé et me suis affaissé sous moi. C'est un inconnu qui m'a sorti de ma torpeur. « Monsieur, ça va ?» Je lui ai présenté mes excuses, je me suis rassemblé et je suis parti pour Hambourg. Mon chauffeur m'a de nouveau déposé en bas de la maison vers 20 h le soir même. L'entrée de l'appartement était tapissée de carton. Chaussures moi, vêtements étaient filles, peluche Lucie, dessous Ariane. Bon. J'ai ôté mon écharpe, mon manteau, ma veste. ma cravate, ma montre, mes boutons de manchette, mes souliers, mes chaussettes. J'ai inspecté le courrier, me suis servi un verre, et j'étais en train de me faire couler un bain quand l'interphone a retenti. C'était Julio, le nettoyeur. Bien entendu, je l'ai aidé. Non pas que j'y tinse plus que cela, mais je ne pouvais décemment pas regarder ce brave garçon se charger de tout mon linge sale en famille sans lui donner un coup de main. D'ailleurs, ma femme vous le confirmerait. Je suis un monstre, mais gentil quand même. Gentil. Parce que Julio et moi monopolisions l'ascenseur, vous vous étiez finalement décidé à emprunter les escaliers et à gravir nos 6 étages à votre rythme. Vous êtes arrivé essoufflé. Vous n'aviez plus 20 ans et vous étiez lourdement chargé. 2 épais dossiers maintenus sous le bras gauche et un panier en osier rempli de victuailles à la main droite. Un panier d'où dépassaient des branches de céleri et des feuilles de poireaux. Je m'en souviens parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne vous aurais jamais imaginé dans un rôle domestique. Je ne sais pas pourquoi. Je n'imaginais simplement pas qu'un homme en derby à boucle pût cuisiner. C'est idiot, mais j'ai tiqué sur les poireaux, je l'avoue. Pour ma défense, j'étais très basique à l'époque, très sommaire. Donc voilà, nous nous sommes fait face dans mon marasme. J'étais pieds nus, vous chaussés par Robercy, et nous nous sommes salués aussi distraitement que d'habitude. Vous n'avez pas jeté un seul coup d'œil en direction de l'ascenseur ou de mon appartement. Vous vous êtes juste faufilé entre 2 cartons et vous avez refermé la porte de votre appartement derrière vous. L'efficace Julio a vite fait place nette et, le pire de tout, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un pourboire. Je n'ai même pas réfléchi. C'est instinctif chez moi. Je remercie toujours et je remercie toujours avec de l'argent. J'entends d'ici les de protestations des béni-oui-oui du sentiment. Toute ma vie, je les ai entendus, toute ma vie. Seulement, voyez avec Julio, mais il me semble qu'un billet de 50 glissé dans un petit merci lui aura fait autant plaisir qu'un grand merci glissé dans rien du tout. Et sa moralité n'a rien à voir là-dedans. Ni la mienne, d'ailleurs. Toute ma vie, on a voulu me faire culpabiliser de gagner de l'argent. D'en gagner et de m'en servir pour prendre des raccourcis avec les choses comme avec les gens. De tout vouloir acheter. Et surtout les marques d'affection. Je n'ai jamais su me défendre. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je sais fabriquer de l'argent comme d'autres savent en dépenser, et j'en donne facilement parce que je sais combien c'est commode. C'est aussi simple que cela. À cause du prix de nos souliers, nous avons souvent effleuré ce sujet. Nous n'abordions rien, mais nous effleurions presque tout. Et vous souteniez toujours que ces gens bien pensants étaient finalement beaucoup plus obsédés par le pognon que je ne l'étais moi-même. Vous êtes au-dessus de tout soupçon, mon cher Paul. Pour vous, insistiez-vous, l'argent n'a aucune valeur puisque vous êtes né avec. Ces gens sont obtus. Laissez ça. Laissez la valtaille. Laissez. Et quand ça ne suffisait pas à me consoler d'être si mal compris, vous finissiez toujours par chasser les nuées en citant Alphonse Allais. Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Pardonnez-moi, mon cher Louis. Mais je profite de cette dernière soirée avec vous pour m'épancher un peu plus que d'ordinaire. L'altitude, probablement. Julio a fait place nette, disais-je, et j'ai refermé ma porte comme vous aviez refermé la vôtre quelques minutes plus tôt. Là, j'ai du mal à raconter. Il faudrait, pour dire les choses avec justesse, employer des mots que je ne sais pas manipuler. On ne me les a pas appris, ou je n'ai jamais voulu les apprendre. Trop lâche, trop corruptible, trop peu fiable, trop manipulable, justement. Et c'est parce que j'étais cet interné, cet incarcéré de l'intérieur, ce connard fini, que j'en étais là à cet instant précis de ma vie. J'avais 54 ans, je dirigeais une société fondée par mon arrière-grand-père, j'étais fils unique, mon père s'était tué en pilotant son avion quand j'avais 10 ans, ma mère, la régente, avait enfin abdiqué et se vautrait dans la maladie d'Alzheimer avec délices. Ma première femme était partie avec notre fils aîné aux États-Unis, la seconde avec nos 2 filles chez un homme attentionné, et la distance me semblait plus terrifiante encore, et l'eau de mon bain refroidissait. Voilà. C'est tout. C'était tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas depuis combien de temps je me tenais prostré devant. Je ne m'en souviens pas. J'étais dans le noir quand on a toqué à la porte. Je me suis bricolé à la va-vite un masque en forme de visage à peu près présentable, mais j'avais dû, dans ma précipitation, l'enfiler à l'envers, car je vous ai vu, vous, vous décomposer l'espace d'une demi-seconde avant de reprendre vos esprits, c'est-à-dire votre mine impassible, et m'annoncer. Potage maison, mission Aubryon 2009, Humphrey Bogart et Audrey Hepburn. Et comme je restais sans voix, nous passerons à table dans 10 minutes. Je laisse la porte entrebâillée. À tout de suite. Et vous avez tourné les talons. Oh, merci, Louis. Merci. Merci, car votre ton était si calme et si péremptoire que je me suis aussitôt retrouvé dans la peau d'un petit garçon sommé d'aller se laver les mains. Et comme tout devenait simple d'un coup, à table ! On m'appelait à table. Je me suis donc dirigé vers la salle de bain. J'ai commencé par m'asperger le visage d'eau froide et je... Comme je renâcle à dire ces choses. Comme cela me coûte. Et il a fondu. Le masque a fondu. Quelque chose a fondu entre mes mains. Quelqu'un a... Bon, passons. Que d'eau, comme dirait l'autre. J'ai enlevé ma chemise, je me suis frictionné les bras, le torse, le cou, les épaules, le nombril. J'ai fini par me redresser et je l'ai reconnu. J'ai reconnu le petit héritier Caillet qui n'avait pas le droit de pleurer en société. Ça suffit, Paul, ça suffit. Souviens-toi que tu as eu beaucoup de chance dans la vie. Je l'ai reconnu dessous sa croûte, sous sa couenne, complètement à vif. Dans le miroir même qui avait vu sa femme commencer à l'écorcher quelques heures plus tôt. Oui, merci, Louis. Merci de m'avoir permis cela. De me dépouiller enfin. Votre appartement était plongé dans la pénombre. J'ai longé un couloir en me fiant à la lumière des bougies que vous aviez disposées sur une table basse dans ce capharnaüm de rayonnage, de livres, de dossiers, de papiers épars et de piles de vieux journaux, qui devait être votre salon. Devant un profond canapé, un couvert pour deux était dressé. Une jolie nappe, deux assiettes creuses posées sur deux assiettes plates, deux cuillères à soupe en argent, deux verres à vin, une bouteille mise à chambrer, un morceau de fromage posé sur une petite planche en bois et une corbeille de pain. J'ai entendu votre voix au loin qui m'intimait de m'asseoir et vous êtes apparu vêtu d'un tablier en tenant devant vous une soupière fumante. À l'aide d'une grosse louche ancienne, vous m'avez copieusement servi, et puis vous avez moulu un peu de poivre au-dessus de mon assiette et m'avez versé à boire. Ensuite, vous avez dénoué votre tablier, vous vous êtes calé dans le canapé à côté de moi, vous avez soupiré d'aise, vous avez approché votre verre de votre nez, vous l'avez humé, vous avez souri, vous avez saisi la télécommande, vous m'avez demandé si j'avais besoin des sous-titres, j'ai fait signe que non, vous avez acquiescé. Vous avez lancé Sabrina et vous m'avez souhaité bon appétit. Nous avons donc festoyé avec la ravissante Audrey, laquelle, et comme cela tombait bien, revenait à l'instant de la meilleure école de cuisine de Paris. Délicieux. Délicieuse. Les violons, la romance, le beaufort et la bouteille évanouie, vous m'avez raccompagné jusqu'à la porte en silence. Puis vous m'avez souhaité bonne nuit avant de me donner rendez-vous le lendemain soir à la même heure. J'étais si sonné que je vous ai à peine remercié. Et, contre toute attente, j'ai bien dormi cette nuit-là. Bien, bien dormi. Au point où nous en sommes, je peux vous confesser ce plaisir solitaire. Je me suis endormi en pensant à vos jolies pantoufles. Shipton and Heinich. Gratian Slippers, me confesserez-vous à votre tour quelques semaines plus tard. Merci, Louis. Merci. Merci. Je ne sais pas encore combien de fois je vais me répéter ainsi, je les compterai à la fin. Et ce sera autant de merci que de poignées de terre, enfin non, autant de merci qu'il en faudra. Le lendemain soir, ce fut velouté de potirons. Et c'est le lendemain soir que j'ai compris pourquoi j'étais là. Après le même rituel que la veille, vous vous êtes tourné vers moi, la télécommande toujours à la main, et vous m'avez demandé, l'air vaguement inquiet. J'avais prévu la garçonnière, mais j'ai peur de manquer de tact. Peut-être est-ce encore un peu tôt, non ? Quel beau sourire ! Non, c'est parfait, vous ai-je répondu émerveillé, c'est parfait. Louis, personne n'avait jamais pris soin de moi ainsi, personne. Ai-je pensé vous dire merci ? Une fois dans ma vie, on m'a nourri de la sorte, avec la même rudesse et la même tendresse absolue. Une fois. C'était Emilia, Yaya, la petite bonne Alsacienne qui travaillait chez ma grand-mère à la Hutte Chaude, maison sinistre du Nivernais où j'avais passé tout un été livré à moi-même juste après la mort de mon père. Quand j'étais seul au château, comme elle disait, elle me permettait de dîner à l'office avec elle et me préparait du pain perdu en trempant dans je ne sais quel appareil au lait, au sucre et à la cannelle, les tranches d'un gros pain de 4 livres rassis à cœur. Jamais je n'oublierai le goût de ce pain perdu. Jamais. C'était le goût de la bonté, de la simplicité et du désintérêt, mais qui ne me furent pas si souvent servis depuis. Yaya qui me défendait de parler quand c'était l'heure de son feuilleton à la radio et à laquelle j'ai dû relire des dizaines de fois le passage du roman de Jules Verne où Michel Strogoff est condamné à ne plus voir les choses de la terre en étant aveuglé par un sabre chauffé à blanc. Je m'appliquais à rouler les airs du méchant Ogareff pour que sa voix sonnât plus cruelle et plus redoutable encore. Elle adorait ça. J'ai appris quelques mois plus tard, et complètement par hasard, qu'elle avait été renvoyée. Et quand j'ai enfin osé demander, et il m'a fallu pour y parvenir faire montre du même courage que le fier coursier du tsar, à ma grand-mère pourquoi, elle m'a simplement répondu qu'elle, Yaya, ne sentait pas toujours très bon. Louis, j'abuse ? J'abuse de votre éternité avec mes pleurnicheries de gamin ? Si oui, ne vous en prenez qu'à vous, mon ami. Je ne me souvenais même plus que je me souvenais de Yaya, et sans vous, je ne m'en serais probablement jamais souvenu. Ce rituel, soupe, grand vin et classique hollywoodien, a duré jusqu'aux premières heures de l'année suivante. Chaque soir, vous me donniez rendez-vous pour le lendemain, et chaque lendemain soir, je retrouvais nos dînettes de vieux garçons avec un soulagement indicible. Indicible, adjectif, qui ne peut être dit ou traduit par des mots à cause de son caractère intense, étrange, extraordinaire. Ni vous, ni moi, n'avons fait la moindre allusion à Noël ou à la Saint-Sylvestre. Puisque vous aviez la gentillesse de renouveler votre invitation d'un soir sur l'autre, et que je n'étais pas en état de la refuser, nous avons vécu comme si de rien n'était. Ou plutôt, rien n'était, et j'ai vécu quand même. Mon fils, c'était prévu, était parti skier avec sa mère et son fringant beau-père dans le Colorado pendant qu'Ariane et les filles folâtraient en maillot de bain derrière une barrière de corail. Je n'ai pas cherché à savoir si l'homme attentionné était aussi du voyage, cette apparente indifférence étant, je l'avais décidé, l'aimable présent que je m'offrais à moi-même. Et vous êtes devenu, à votre insu, ma seule famille et mon unique point de chute. Pour ce qui vous concerne, je ne sais pas. Je me suis bien gardé de vous demander si vous n'aviez vraiment rien de plus amusant qu'un cocu de palier à vous mettre sous la dent en ces jours de fête. Non, je n'ai pas pris ce risque. Et aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, je ne sais plus si je regrette mon manque de délicatesse ou si je m'en félicite, au contraire. Bien sûr, je n'avais aucune envie d'être éconduit, mais il n'y avait pas que cela, Louis. Il n'y avait pas que cela. Je respectais vos silences. Et même cette nuit, vous savez, si je me permets toutes ces impudeurs, c'est uniquement parce que je vous écris du bout du monde et dans un état plus proche du somnambulisme que de la simple insomnie. Le 24 au soir, vous aviez programmé « La vie est belle » de Frank Capra. Ce n'est pas très original et vous avez déjà dû le voir 20 fois, mais vous verrez, on ne s'en lasse pas. Et puis ce gentil Claude Vougeot fera le reste. Je n'ai pas osé vous contredire. Je ne l'avais jamais vu. Et je vous ai été très reconnaissant de nous laisser dans le noir encore quelques minutes après les dernières paroles de l'ange. J'avais pris le destin de ce George Bailey dans le plexus. Et je n'étais pas très vaillant au moment de regagner mes pénates. Si peu vaillant que je suis revenu sonner à votre porte quelques minutes plus tard. Vous avez oublié quelque chose ? Non, mais je... Vous savez, moi aussi, j'ai repris l'affaire de mon père après sa mort, et comme je ne savais pas quoi ajouter, enfin si, je savais très bien, mais je ne savais pas comment m'y prendre, vous avez mis fin à mes atermoiements les balayant d'un rire franc. Mais bien sûr que je le sais, voyons, tout le monde le sait. Votre nom est un des fleurons de l'industrie française. Allez, allons nous coucher. Toutes ces émotions nous ont épuisés. De nouveau chez moi, assis dans la cuisine de mon grand appartement vide et au bout du deuxième verre de ce délicieux whisky que l'un de mes collaborateurs m'avait offert le matin même, j'ai enfin pu finir ma phrase. Personne ne l'a entendu, mais je vous disais à peu près « Moi aussi, j'ai repris l'affaire de mon père après sa mort, et moi aussi je connais cette solitude. » Cette solitude et cette angoisse terrible de perdre la face. Mon ennemi, ce n'est pas l'odieux Potter. Mon ennemi, c'est la fin d'un monde, de mon monde, du monde que je représente. Mon ennemi, c'est la mondialisation, c'est l'Asie où je me dévoie en ce moment même, c'est la délocalisation. Mon ennemi m'a vaincu déjà. Fleuron de l'industrie française. Mais mon cher Louis, il n'y a plus d'industrie française depuis longtemps. Je ne développe plus mon entreprise, j'évite seulement de la perdre. Je sauve les bijoux de famille, ou je les brade au contraire. Les pieds du colosse sont en argile et quelques gorgées plus tard, et je suis seul. Bien plus seul que ce George Bailey ne l'a jamais été, car je n'ai jamais fait le bien autour de moi, moi, même fortuitement. Et je n'ai jamais su me faire aimer comme lui, car je n'ai jamais su aimer non plus. Aussi cynique que cela puisse paraître, je n'en ai jamais eu les moyens. J'ai souvent entendu dire que j'étais né coiffé, mais coiffé de quoi, mon Dieu? D'un casque à pointe? D'une mitre en fonte? Je ne suis pas né coiffé, je suis né plombé. Et à l'heure des bilans, non seulement ma femme ne bat pas le rappel pour me sauver de la noyade, mais elle est partie se chauffer le cul je ne sais où en me privant de mes enfants le jour de Noël. Quant aux amis, parlons-en. Quels amis? De quoi parlons-nous? Je ne sais même pas comment ça se manufacture, un ami. Ça se conçoit? Ça se met au point? Ça se teste? Ça se fait copier à moindre coût? Ça se brevette? Bon. J'étais saoul. Et parce que j'étais saoul, j'ai pu enfin terminer ma phrase. Non. Je n'ai eu le temps de rien. Et je suis seul au monde. Mais ce soir encore, vous êtes là. Voisin inconnu qui ne parlait pas, qui ne demandait rien, devant lequel je me présente toujours les mains vides, ce qui ne m'était encore jamais arrivé de ma vie. Devant lequel je me présente toujours les mains vides parce que je suis si vide, moi aussi. Si vide. Si découragé, si démuni, que je n'ai même plus un sou de politesse à offrir et merde. Encore une gorgée. Et ce n'est pas ma communauté qui m'a rattrapé par le col au-dessus du parapet un soir de désespoir, c'est vous. C'est vous qui m'avez sauvé. Je pleure, Louis. Je pleure sur moi. Non mais c'est un comble. Voyez ce gredin qui vous barbote votre oraison funèbre. Heureusement que le ridicule ne tue pas non plus. Vos soupes m'ont donné faim. Ne quittez pas, je vous mets en attente le temps de joindre le room service. Bientôt 3 heures. J'ai avalé mon bol de bibimbap, riz, légumes sautés, œufs frits, pâtes de piment rouge, debout devant la fenêtre. Plus de 10 millions d'habitants et personne ne semble dormir. Les bureaux, les immeubles, les écrans publicitaires, la Seoul Tower, le trafic, les avenues, la voirie, les ponts, tout scintille. Non, pardon, tout brille. Pas de lune et pas la moindre étoile. D'aussi haut que je suis et aussi loin que porte mon regard, je ne vois rien qui ne soit pas artificiel. Tout brille. Tout clignote. J'ai remarqué que les chambres d'hôtel de ces villes monstres, et sur quelque continent que ce soit, me tiennent toujours lieu de sismographe intérieur. Quand je suis en forme, j'admire la main de l'homme et je pourrais rester des heures à étudier son accomplissement, et quand je suis moins vaillant, comme ce soir, Elle me prend à la gorge et je m'en détourne en chancelant. Qu'avons-nous fait? Où allons-nous? Comment tout cela finira-t-il? Bon, grand prêchi-prêcheur de messieurs, rends-nous Louis ou va te coucher. Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Frank Capra, Stanley Donen, Vincente Minnelli. Nous avons donc passé la trêve des confiseurs dans la plus belle usine à bonbons de l'histoire du cinéma et, peu à peu, chaque soir, à force de nous retrouver en vieux habitués de la même petite salle de quartier, nous avons commencé à engager la conversation. Dans un premier temps, nous l'avons joué cinéphile. Nous commentions la mise en scène, le scénario, les producteurs, les anecdotes de tournage, les acteurs, les actrices. Vous étiez fou du coup d'Audrey. Les autres vous divertissaient seulement. Et de film en film, de film en aiguille, si j'ose dire, nous en sommes venus à nous. Enfin à nous. Au nous des garçons. C'est-à-dire à des propos qui n'avaient pas grand-chose à voir avec notre soi. Plutôt des sujets aussi divers et variés que notre boulot, notre carrière, notre job, notre travail, notre métier, notre secteur, notre parti, bref, notre raison sociale. Raison sociale, laquelle, au vu des folichonnes petites soirées de fête de fin d'année que nous étions en train de passer, avait tout l'air d'être aussi des raisons de vivre, mais bon. Nous étions trop occupés à nous jeter des confettis à la figure et à nous dandiner comme des petits foufous sur la danse des canards pour avoir encore l'aplomb de nous le faire mutuellement remarquer. La vérité, c'est que vous et moi nous étions retranchés et que nous observions la ligne de front depuis les interstices laissés par Audrey, Shirley, Ginger, Marlène, Lorraine, Jane, Sid, Leslie, Debbie, Rita, Greta, Gloria, Barbara, Catherine et Marilyn. Avouez que, comme sac de sable, on a vu pire. Oui. Nous avons commencé à nous tourner vers notre voisin de fauteuil quand la lumière se rallumait et les soirées passant, le vin bonifiant, les cuirasses se fendillant et les langues se déliant, nous nous sommes projetés nos films à nous. Nos 7 ans de réflexion, nos chemins de la gloire, nos sarabandes des pantins, nos ports de l'angoisse, nos boulevards du crépuscule, nos assurances sur la mort, nos grands sommeils et nos gouffres aux chimères. Plus nous tenions l'intime à distance et plus nous nous dénudions car nos raisons de vivre, aussi désolantes qu'elles puissent paraître, disaient finalement beaucoup de nous. Disaient tout de nous. Votre robe, votre spécialité, vos dossiers, vos cas, ma toge, mon hérédité, mes dossiers, mes tracas. Que voulez-vous que nous ajoutassions à tout cela? Rien. Notre vie. Notre vie était là. Oh! Cahier pompon, tu t'entends quand tu causes? Avec tes imparfaits des subjonctifs, tes rimes en dedans, tes points de virgule et tout le tintouin? Tu peux pas jacter plus simple, gros? Alors, en fait, Loulou et moi, on commençait à teaser sévère, alors forcément, on a commencé à se déboutonner. Et plus on se montrait nos gags, plus on voyait que ça pissait pas bien loin, tout ça, et c'était même pas de la peine qu'on se la raconte vu qu'on était en plein dans la magie des fêtes et qu'on était là comme deux vieux cons à bouffer notre tapioca en mettant des films qu'on connaissait déjà par cœur et... Vous l'avez vu, mon majeur, là? Vous avez vu comme il vous indique bien le chemin vers la maison du Père Noël? Je ne sais pas pour vous, Louis. Je ne peux pas parler à votre place, mais pour moi, je vous le dis tout net. Ce fut la plus belle trêve de ma vie. Et même, si j'osais, si j'étais vraiment sûr et certain que vous fussiez mort pour toujours. Peut-être alors. Peut-être que je vous le dirais. Ce fut la trêve de ma vie. Noël, ce n'est jamais très amusant quand vous êtes fils unique. Quand en plus vous devenez orphelin, ça commence vraiment à sentir le marronnage. Mais quand on vous rajoute dans la hotte un premier divorce transatlantique, une séparation par enfourade du chaperon à sec, des enfants que votre stress aurait contaminés et un amant intentionné, alors... Comment dire? Le gai pipeau du joli santon et des bonnes résolutions, c'était mieux chez vous. C'était plus honnête. J'ai été un mauvais fils, un mauvais mari et un mauvais père. Je le sais. C'est un fait. C'est factuel. Mais non. Pas de mais. Je ne vous écris pas cette nuit pour me justifier. Pas de mais, donc. Mais quand même. Et, or, il se trouve que j'ai été élevé sans amour. J'ai été élevé sans amour et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'avoir grandi tout seul, de n'avoir jamais eu son content de... je ne sais pas, son content de bras. On en garde pour toujours quelque chose de dur et de maladroit. J'ai été, je suis, un homme dur et maladroit. Et, or, il se trouve aussi que j'ai été éduqué, non, pardon, dressé pour assurer la pérennité d'une entreprise que je n'ai pas fondée, mais qui assure le gîte et le couvert, et peut-être même, peut-être, qui sait, le soin, l'éducation, la paix, une certaine paix, disons, une relative paix matérielle, à des milliers de gens. Cela aussi, c'est factuel. Mauvais mari, mauvais fils et mauvais père, mais en attendant, tout le monde mange à sa faim. Tout le monde. Si j'étais monté à bord de cet avion comme c'était prévu, si j'avais eu une meilleure note à ma composition d'histoire, si j'avais su qui était Pépin le Bref, ce qu'il avait fondé et qui était son fils, si mon père ne m'avait pas puni en me privant de cette sortie avec lui, je serais mort moi aussi. Je serais enterré à ses côtés dans un mausolée ridicule et ces milliers de gens que j'évoquais plus haut ne s'en seraient peut-être pas plus mal portés. Mais en attendant, c'est moi qui m'y suis collé. C'est moi. Et l'on ne m'a pas demandé mon avis. Et tout le monde mange. Le reste, je n'ai pas su. Je n'ai pas su mener de front une vie professionnelle et une vie privée. Je savais que j'étais mieux équipé, seulement équipé, pour la première, et je l'ai, plus ou moins consciemment, selon que la vie semblait m'en distraire ou pas, favorisé. Ce sont des détails dont je ne suis pas fier et connu de moi seul, mais je le sais. Je sais que j'ai favorisé ce qui me semblait le plus facile, le plus confortable. Non, pas le plus confortable. Ce n'est pas le genre de la maison. Le plus jouable. J'ai favorisé la dureté et la maladresse pour transformer en atout ces handicaps. J'ai favorisé ce qui me désavantageait le moins. Et voilà où j'en étais. Voilà ce que je ressassais ces nuits où je vous quittais et me retrouvais en roue libre avec ma gamberge. Chez vous, réalisais-je, et même si vous viviez seul, il y avait de la vie. La vie se sentait aimée. Chez moi, il n'y en avait plus. J'ignore toujours pourquoi vous m'avez tendu la main, Louis. Vous ne me l'avez jamais dit. Mais ce que je sais, c'est que notre trêve hivernale m'aura fait beaucoup de bien. Mange ta soupe, ça te fera grandir, disent les mamans véritables, et merci pour vos soupes, voisins. Merci pour vos soupes, vos potages, vos veloutés et tous vos brouets de sorciers. J'étais déjà trop vieux pour grandir, hélas, mais vous m'avez permis de me redresser, de redresser la colonne, de revertébrer le bonhomme et de lui faire gagner, quoi, un bon petit centimètre, peut-être. Un petit centimètre et l'envie, le besoin plutôt, la nécessité de prolonger ce cessez-le-feu avec moi-même. Pépin le Bref était le roi des Francs, il avait fondé la dynastie des Carolingiens et c'était le père de Charlemagne. Bon, et maintenant que je m'en souvenais, je pouvais bien l'oublier, non? Franchement, mais qu'est-ce que j'en avais à foutre de Pépin le Bref? Notre 31 fut parfait. Je n'étais pas venu la veille et je suis arrivé tard ce soir-là, car j'avais fait la tournée des popotes afin de remercier tous les employés du siège et des sites français pour l'année écoulée. Je n'aime pas les vœux. Trop pieux, trop mondain. Mauvais père, mais bon paternaliste de patron, persifleront les mauvaises langues. Oui, c'est vrai. Bon paternaliste de patron. Entrer dans les bureaux, distraire les étages, visiter les ateliers, démater les cadences, entrer dans les guérites, regarder les visages, serrer des mains, chercher les yeux, comprendre les choses, noter les choses dans un coin de ma tête, ne pas les oublier, n'oublier personne. Descendre dans les parkings et saluer aussi ceux que l'on ne voit jamais, ne pas en faire trop, ne pas en faire du tout même. Juste, voilà. Juste, je passe. Je suis passé. Je suis votre bon con pâtissant de patron, c'est entendu, mais en attendant, voyez-vous-même, je suis passé. Je me souviens que vous existez, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je m'en souviens. Je suis arrivé tard, disais-je, et je n'avais même pas pris la peine de changer de chemise alors que vous aviez sorti le tablier des grands jours et vous vous êtes présenté devant le radeau qui nous servait de canapé précédé d'un grand plateau. Plateau sur lequel étaient posés deux bols blancs surmontés d'un dôme en pâte feuilletée. Vous vous êtes raclé la gorge et vous avez annoncé gravement une main repliée dans votre dos. « Ce soir, soupe à la truffe, plat créé en 1975 par M. Paul Bocuse, le jour où il reçut sa Légion d'honneur, à l'occasion d'un déjeuner donné à l'Élysée par M. Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, et son épouse, la sémillante Anémone. » Et là, j'ai ri. J'ai ri parce que votre tablier vous dotait en trompe-l'œil du buste d'une créature sublime de vulgarité et quasiment nue, quelques franges, tout au plus, quelques franges, quelques turquoises et quelques plumes d'aigle, assises les cuisses largement écartées derrière le guidon d'une Harley Davidson. J'ai ri, et vous m'avez souri. Et ce fut notre Guy. Vous étiez très en forme ce soir-là. Vous aviez programmé « Chantons sous la pluie », je crois que vous aviez un peu bu en m'attendant, et le film terminé, vous avez murmuré « Il faut que je vous avoue quelque chose ». J'ai détesté le ton de votre voix. Je n'avais aucune envie d'aveu. Je détestais les aveux. Ils me terrifiaient. Nous nous en étions très bien sortis jusque-là sans verser dans la sensiblerie, alors pourquoi tout gâcher ? Je vous écoute, me suis-je raidi. Eh bien, figurez-vous que ce vieux schnock, là, oui, celui-là même, ce grand échalas rouillé qui est vautré près de vous a été élu meilleur danseur de claquettes du Fred and Ginger's Club d'Harvard l'été 1900... Bah, en son temps, quoi. Vraiment ? Me suis-je détendu. Ne bougez pas. Vous vous étiez redressé. Je voudrais que vous sachiez, Paul... Il était un peu rond. Que vous sachiez... Que vous n'avez pas été le seul à soutenir la France à l'export. Non, non, non. Moi aussi, j'ai participé au plan Cocorico, mon cher. Moi aussi, j'ai porté nos couleurs. Ne bougez pas et voyez un peu comment ça sautait une French grenouille. Il est revenu chaussé d'une vieille paire de souliers tricolores. And now, roulement de petites cuillères sur le crâne en bronze du grand-père, ladies and gentlemen, oh no, damn, and now, gentlemen only, juste devant vos yeux ébahis, the very famous Froggy Louise dans son encore plus very famous numéro de tap dancing. Et là, le fou dansant. Fred Astaire et Gene Kelly pour moi tout seul. Un peu rouillé et un peu pété, certes, mais pour moi tout seul. Roulement de petits fers sur le parquet du baron Haussmann. Roulement, cliquetis, chanson, mélodie même. Oui, mélodie de petits fers sur le parquet du vieux baron, tandis qu'on entendait au loin les pétarades étouffées de quelques feux d'artifice tirés depuis je ne sais où. De loin, mais j'étais vraiment assis tout au fond du canapé, on aurait un peu dit un Américain à Paris. Ensuite, vous m'avez montré les techniques de frappe à un son, à deux sons, à trois sons, à... Enfin non, les autres combinaisons, vous n'avez pas pu. Vous étiez de nouveau affalé auprès de votre ébahi hébété. Ah, Louis, comme elle a bien fini, cet anus, année horribilis, là. Comme elle a bien fini. D'autant plus fini qu'en nous quittant quelques instants plus tard, nous nous sommes fait comprendre sans rien avoir à nous dire que voilà. Now, gentlemen and gentlemen, voilà, le show était terminé. Les films rembobinés et les parapluies refermés. Je vous ai serré la main pour la première fois et, pour la première fois, vous m'avez raccompagné jusqu'au pas de ma porte. Je vous ai dit un peu trop solennellement, je crois. Je vous remercie, Louis. Je vous remercie. Vous avez balayé d'un revers de la main ce trop-plein de solennité et m'avez répondu en me regardant droit dans les yeux. Ça va aller. Vous allez voir. « Ça va aller. » J'ai fait oui avec la tête, exactement comme l'aurait fait le petit Paul aux mains sales du premier soir, et vous êtes reparti dans un délicieux tap-tap-tikatok, petit entrechat hollywoodien made in France. Le lendemain après-midi, 1er janvier, je suis allé rendre visite à ma mère dans son chic mouroir médicalisé. Bien sûr, elle ne m'a pas reconnu, pas plus ce jour-là que les fois précédentes. Elle regardait fixement l'inconnu qui s'était installé au pied de son lit, et nous avons joué à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette du néant » pendant un long moment, et puis j'ai fini par rompre le silence. « Vous savez, je me suis fait un ami. » Elle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi et cela n'avait aucune importance. Le bien était fait. J'aurais réussi au moins une fois dans ma vie à établir une forme de complicité avec elle. Du coup, j'ai continué. Il s'appelle Louis, il est très gentil et il fait des claquettes. D'entendre ma voix prononcer ces mots si bêta, si simple, si enfantin, un jour chômé et devant cette femme qui aura attendu d'avoir le cerveau en charpie pour s'humaniser enfin et me renvoyer l'image d'une mère à peu près lisible, m'a donné envie de rire et de pleurer à la fois. Je ne savais plus, là. Je ne savais plus. J'étais perdu. Je ne savais tellement plus rien que je suis resté auprès d'elle beaucoup plus longtemps que d'habitude. J'étais bien. C'était tranquille. Je cuvais au calme. Je la regardais. Je regardais son visage, son cou, ses longs bras inutiles, ses mains. Je me disais, regarde-la bien, parce que tu ne reviendras pas. Tu ne remettras plus les pieds dans cette chambre. Elle ne t'a pas connu. Elle ne te reconnaît plus. Et aujourd'hui, c'est comme avec cette histoire de Carolingien, aujourd'hui, c'est trop tard. Cela ne te sert plus à rien de t'en souvenir. Regarde-la une dernière fois et puis fais comme Louis t'a appris. Glisse, brosse, frappe et tape avec transfert de tout ton poids sur le fer. Raisonne, Paul. Raisonne. Regarde-la une dernière fois et laisse derrière toi ce qui ne pèse plus. Ensuite, les hostilités ont repris, mais ce n'était plus pareil. Même si nous nous sommes très peu vus dans les semaines et les mois qui ont suivi, je savais que vous étiez là, que la bonté était là. Cela peut sembler dérisoire comme le mignon dans une vie aussi aride que la mienne, mais je me comprends. C'était comme dans cette antichambre terrible où patientait ma mère. Le bien était fait. Le bien avait été fait. Le reste, soudain, pesait moins sous le harnais. Le reste suivrait. Tout s'en trouvait modifié. Audrey était passée. Ariane, elle, n'est jamais revenue. Mais nos relations sont devenues plus chaleureuses. Le prétexte, bien sûr, c'était les filles. Les filles et leur logistique. Et le prétexte était joli. J'avais été incapable de leur offrir une vie de famille heureuse, et j'étais toujours aussi maladroit, mais elles le savaient depuis longtemps. Elles le savaient, et elles en avaient pris leur parti. Du coup, elles s'occupaient bien de leur grand dadais de papa. Elles le prenaient un week-end sur deux, certains mercredis soirs, quand il était là et pendant ses semaines de vacances. Elles l'habillaient, elles le sortaient, elles l'emmenaient au jardin d'acclimatation ou aux eaux de Vincennes. Elle lui montrait comment envoyer des ballons, des feux d'artifice ou des confettis par texto. Elle lui apprenait à décrypter la subtilité du langage des émoticônes, à regarder des tutos de maquillage, à jouer à Harvest Moon DS, à trouver des lutins, à acheter la pierre de téléportation, à construire un poulailler, à sauver la princesse de la moisson, à changer sa photo de profil, à unfriender des faux amis, à liker des youtubeuses rigolotes, à arrêter d'aller tout le temps au restaurant et à découper en parts de gâteaux équitables des conglomérats de coquillettes d'archicuites. Elles lui ont surtout montré un autre chemin que celui de la culpabilité. Un autre chemin, un détour, un raccourci, une amnistie. Ok, il n'avait pas fait le job et certains manquements ne seraient jamais réparables. Mais en attendant, c'était lui qui avait mis la main sur le grand miracle au casino des lutins. C'était lui. Non. Nous ne nous voyions plus tellement, vous et moi. Et puis un soir, vous avez remis ça. Vous nous avez croisés sur le palier et vous nous avez invités à venir au cinéma chez vous. Ô tempora, ô mores, les sushis avaient remplacé la truffe et Julien n'était pas habillé par Givenchy, mais vous adoriez Pretty Woman et les filles l'ont adoré avec vous. Un nouveau ciné-club était né. Un samedi soir sur deux, si Louis était là, alors nous allions chez lui. Vous leur avez présenté Paul Grimaud et ils vous ont offert Hayao Miyazaki en échange. Vous leur avez donné Buster Keaton et elles vous ont prêté Buzz l'éclair. Vous leur avez offert tout demi et elles vous ont rendu tout Ghibli. Elles aimaient beaucoup venir chez vous. Elles aimaient votre foutoir, vos cannes, vos daumiers, vos coupe-papiers, vos sulfures. Elles vous disaient « Mais pourquoi tu gardes tous ces vieux journaux partout par terre ?» Et vous répondiez en baissant la voix « Parce que des petites souris vivent dessous, figurez-vous. » Et ensuite, elles avaient tellement de mal à se concentrer sur le film, tellement de mal. D'un œil, elles pleuraient Iti, et de l'autre, elles guettaient le moindre frisli à la surface de vieux mondes oubliés. Mais tout cela restait très ténu, très pondéré. Nous étions farouches, l'un et l'autre. Nous avions reçu peu ou prou la même bonne éducation qui apprend la paralysie aussi sûrement que la courtoisie, et nous avions toujours peur de déranger. Moi, surtout, je me tenais en retrait. Vous étiez un homme de dossier, je savais que vous travailliez beaucoup chez vous, et j'étais très scrupuleux avec ça. Le travail, le dieu travail. Et puis, il y avait vos absences, vos nuits de raout, comme dirait l'autre, vos nuits de grand flou. Vous aviez une vie compliquée, Louis, n'est-ce pas? Enfin, compliquée, je ne sais pas, mais contrastée, disons, contrastée. À cause de tout cela, à vos dossiers, votre solitude, vos ellipses, j'aurais pu en rester là, à notre trêve d'autrefois, et m'en serais trouvé verni déjà. Mais nos souliers, encore une fois, ont foulé nos bonnes manières. Je ne sais plus quand, ni comment, ni de qui c'est venu, mais ce fut, en plus des séances souris-sushi avec les filles, notre nouveau rituel de vieux garçon à nous. Le dimanche soir, quand j'étais seul et que vous jeûniez, c'était votre mot, nous cirions nos chaussures ensemble. Comme ces trajets en voiture qui donnent l'illusion d'avoir la route pour seul vis-à-vis, comme les randonnées escarpées qui vous imposent de surveiller vos pieds dans les passages difficiles, ou comme l'équetage de haricots qui vous oblige à discerner un fil entre deux petits gestes brusques, comme toute activité manuelle menée à deux et de front, en vérité. Le cirage de chaussures fut un merveilleux moyen de connaître l'autre sans jamais avoir l'air d'y toucher. Nous délassions, nous nettoyions, nous appliquions, nous étalions, nous imprégnions, nous nourrissions, nous cirions, nous frottions, nous brossions, nous lustrions, nous patinions et nous relations, et incidemment, fortuitement, au cours de ces diverses opérations qui nous mettaient à couvert parce qu'elles monopolisaient toute notre attention, incidemment, disais-je, incidemment, nous papotillions. Au début, nous commencions toujours par parler marchandises, nos chaussures passées, présentes et à venir, puis nous causions boutique, nos semaines de travail passées, présentes et à venir, et enfin nous débattions rendement, Dieu, la vie, la solitude, la mort, passé, présent et à venir. Nous nous entretenions de nos cuirs autant que nous les entretenions, et nos derniers coups de polish nous menaient souvent très loin du plancher des vaches. Chaussures après chaussures. Père après père, nous avons appris à bien comprendre la mécanique de l'autre et son mode de fonctionnement. Mais comme nous étions aussi très pudiques, nous avons négligé, non, pas négligé, pas éludé non plus, nous avons respecté, observé plutôt, oui c'est ça, observé, comme on observe une règle, un rite, une minute de silence ou un jeûne justement, nous avons aussi, hélas, observé ses commandements et nous n'avons jamais mis les mains dans le cambouis. Nous connaissions le moteur d'en face, mais nous ne savions rien de sa combustion, de son carburant et de son usure, et je le regrette amèrement aujourd'hui. Je le regrette parce que l'annonce de votre mort a été un choc terrible. Je ne savais pas que vous étiez malade, Louis. Je ne savais pas que vous vous battiez contre la maladie depuis des années. J'étais là. J'habitais la porte d'à côté, je vous devais tant. J'aurais fait n'importe quoi pour vous, et je ne savais rien. Vous étiez mon ami de solitude, mon ami de sur le tard, mon ami du soir, mon ami de campement, mon ami de bivouac, mon ami imaginaire peut-être, mais mon ami, l'ami que je n'ai pas eu le temps de connaître. J'avais écrit d'aimer et puis je me suis ravisé encore une fois. Quel con. L'ami que je n'ai pas eu le temps d'aimprécier. Quel con, disais-je. Bien sûr, 2 ans, c'est court, et nous ne nous voyions pas si souvent. Mise bout à bout, moins les films, moins les filles, moins le va-et-vient des brosses et moins les formules de politesse, nos heures de présence ne furent pas si nombreuses, en fin de compte, et et l'annonce de votre mort fut un choc terrible. Vous disparaissiez souvent, certaines fois longtemps. Vous alliez à la campagne, disiez-vous aux filles. Vous alliez promener vos souris. Et puis un jour, vous n'êtes pas revenu. Un jour, vous n'êtes plus revenu, et un autre jour, Lucie, ma plus jeune fille, via Laure, sa sœur, via Ariane, sa maman, via Mako, leur nounou, via Fernanda, notre concierge, m'a appris que c'était inutile de vous attendre plus longtemps pour revoir le tombeau des Lucioles, que vous aussi vous étiez au ciel, que vous ne reviendriez plus jamais, que... Mais qu'allaient devenir les petites souris ? J'ai appris votre mort par un chapelet de dames. J'étais votre amie et j'ai appris votre mort par la concierge. Quelle claque ! Le nanti. Quelle claque ! Le dominant, le distributeur d'étrennes, le seigneur des pourboires. Quelle bonne grosse claque dans ta face. Vous voyez, vous aurez parfait mon éducation jusqu'au bout. Ensuite, des bruits ont couru que vous étiez... que vous aviez mis fin à vos jours vous-même. Cela ne m'a pas intéressé. Je n'y ai prêté aucune attention. Je vous en sais gré et vous respecte d'autant plus. Le suicide aussi est mon ami imaginaire. J'ai simplement reperdu mon centimètre à force de me tasser sous le poids du remords. L'idée que vous fussiez peut-être venu à bout de vos souffrances en vous en infligeant de supplémentaires me rendait misérable. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais aimé vous aider. De n'importe quelle façon, de toutes les façons. J'aurais pu savoir les détails de votre sortie de scène, mais je n'ai pas voulu les connaître. Vous vouliez partir et vous êtes parti. C'était la seule chose qui comptait, qui m'importait, qui me consolait. Louis, un jour, vous êtes parti à la campagne avec vos souris. Un autre jour, une petite fille en larmes m'a annoncé que vous étiez mort. Un autre jour encore, bien plus tard, des gens sont venus vider votre appartement. Le soir même, un gros garçon qui sentait la transpiration a sonné à ma porte et m'a tendu un carton sur lequel j'ai reconnu votre écriture. A donné au voisin de palier et, dans ce carton, il y avait une caisse de vin en bois. Une caisse de Château-Aubrion en souvenir de votre première mission. Et il n'y avait plus de bouteilles dans cette caisse puisque nous les avions bues ensemble. Mais il y avait deux brosses à étaler en crin de cheval. Une pour les cirages clairs et une pour les sombres. Deux brosses à lustrer en soie de porc. Deux petites brosses façon brosse à dents en soie de sanglier pour les traits pointes et les recoins perfides. Quatre pots de crème. Quatre boîtes de pâte assorties aux crèmes. Un lait nutritif. Une gomme à dents, une brosse en crêpe de la terre de Sommières et un chiffon doux sorti de la côte d'une vieille chemise que je reconnaissais, que je vous avais vu porter. Peut-être même qu'elle n'était pas si vieille que ça, d'ailleurs. Mais elle était douce, assurément. Elle était douce et elle remplaçait le mot d'adieu que vous n'aviez pas pu ou pas voulu écrire. Elle était si douce que je me suis mouché dedans. J'ai très mal vécu votre départ à la dérobée. Louis, très mal. Là encore, je ne sais qui, de l'orgueil ou du gras, du cœur abruti, du cœur, a le plus morflé. Mais je suis resté longtemps dans l'état que je vous décrivais au début de cette lettre. Qu'est-ce que j'avais pondu déjà ? Un coin. Ah oui, c'est cela, un coin. Un coin que l'on aurait enfoncé dans mon crâne, tout en haut, au milieu, là où la fontanelle se ressoude. J'ai toujours souffert de migraines terribles. Et cela vous le saviez car vous m'avez vu terrasser un soir. Vous m'avez vu m'allonger sur votre parquet en me tenant la tête à deux mains. Vous m'avez vu tomber sur votre lit de journaux en m'écroulant comme un gros sac de souffrance. Vous m'avez entendu vous supplier de tout couper. De vous taire, de tout faire taire, de tout éteindre, de faire le noir complet, de ne plus bouger, de ne plus rien bouger, de tremper une serviette dans de l'eau glacée, de me l'appliquer en compresse sur le visage. Et plus tard, la crise passée, vous m'avez écouté vous expliquer que c'était comme une énucléation, qu'un esprit malin armé d'une petite cuillère bien creuse et bien acérée venait se ficher derrière mon orbite et faisait levier de tout son poids en tournant le manche de sa saloperie d'engin dans un sens, puis dans l'autre, très lentement et très consciencieusement, pour sortir l'œil de sa cavité. Et que ces crises étaient si soudaines, si implacables et si féroces, que j'aurais pu me faire sauter le caisson 10 fois, 100 fois déjà. Oui, j'ai toujours souffert de migraines atroces, et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, j'ai votre mort fichée dans ma boîte crânienne, et je vais prendre une douche, je reviens. J'ai brûlant. Longtemps, longtemps, longtemps. Fondu, drainé, dissous, décapé, liquéfié, liquidé. Liquidé, le bonhomme, liquidé. Ça va mieux. Le jour se lève. Je dois me dépêcher. Si j'évoquais mes crises de descente aux enfers tout à l'heure, ce n'est pas pour me faire plaindre, Louis. C'est pour retomber sur mes pieds. Je n'ai plus le temps de chercher mes mots. Je dois partir dans moins de 2 heures et je suis encore en serviette de bain. Je n'ai plus le temps de rien. Je dois juste retomber sur mes pieds avant de jeter de la cendre sur les braises et de quitter le camp. Mes pieds, souvenez-vous, c'est copier-coller la femme pleine d'esprit à laquelle je venais justement, et je vous dirai plus tard dans quelles circonstances, de raconter ses chassés-croisés matinaux en lui précisant l'étrange réconfort qu'il me procurait. Oui, elle. Celle qui alpague Marcel dans la rue en lui demandant s'il revient de chez la duchesse de Guermantes ou d'une pissotière. C'est à cause d'elle que nous avons passé la nuit ensemble, vous et moi. À cause ou grâce à, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sans elle, sans son ironie, sans sa clairvoyance, sans son talent, sans Proust et sans Morand, je ne l'aurais pas fait. Je ne serais pas venu toquer chez les morts. J'en serais resté à mon sans-titre 1 et à mon « tu fais chier » et je ne vous aurais plus jamais adressé la parole. Ou le moins possible. Je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup gagné au change, mais cette fois, je ne vous quitterai pas sur une grossièreté. Tu ne fêtes pas chier, Louis. Tu ne fêtes pas chier du tout. Les circonstances, donc. Venons-en aux circonstances. J'étais dans un aéroport, et oui, destiné. J'étais à Heathrow, à Londres, dans un hall d'aéroport gigantesque, et j'ai fait une crise. Du bruit, des sons, du monde, de la lumière partout, des néons, des appels, de la musique, des gens, des odeurs, des moteurs, des machines, des portiques, des bips, des couleurs, du mouvement, des ondes, des sirènes, des percolateurs, du chauffage, de l'air conditionné, du kérosène, des tintements, des téléphones, des cris, des rires et des enfants. J'ai cru que j'allais mourir de douleur. J'étais debout derrière un pilier, le front posé contre, prêt à reculer et à l'éclater enfin, comme un œuf. Comme un bœuf, comme une calebasse pourrie, comme une noix de coco qu'il aurait fallu enfin briser d'un coup sec. J'étouffais, je transpirais, j'étais couvert de sueur, je frissonnais, je me dévêtais, je grelottais. Je suis revenu à moi dans une chambre d'hôpital. Je vous passe les détails, mais ce fut un long parcours du combattant fort peu glorieux. Le combattant, au bout duquel j'ai été sommé par des compagnies d'assurance et des banques de consulter. De me mettre à poil, de passer par la case fouille au corps, de me présenter devant la science, de m'auditer moi-même en quelque sorte. Et, de consultation en consultation, je me suis retrouvé assis en face d'une femme. De cette femme. Je n'avais rien à lui dire. Je ne lui ai rien dit pendant 2 séances. Au début de la 3e, laquelle nous en étions convenus, elle et moi, serait la dernière au vu de mon évident manque de bonne volonté à coopérer, elle a lâché. Et vous savez, si le préfixe psy vous compromet, car il semble vous compromettre, vous n'avez qu'à m'envisager comme le font mes patients les plus imperméables à toute forme de compromission, ceux qu'on appelle les fous, les dingues, les ozos, les dingos, les Napoléon Ier, les comme vous voudrez. Vous savez comment ils m'appellent, eux? Je la trouvais si impériale dans sa casse-couillerie que j'avais envie de lui répondre « Joséphine », mais je n'ai pas osé. « Il m'appelle le docteur de la tête », reprit-elle en souriant. « Rappelez-moi ce qui vous amène, déjà ?»« Lunettes, coup d'œil distrait mon dossier. « Ah,
oui.
Le genou gauche. Ha, 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 ha. Quel humour. Madame a psychanalysé un clown. » Je n'ai rien répondu. Elle a poussé un soupir, elle a refermé mon dossier, elle a ôté ses jolies lunettes, elle a cherché mon regard et l'a foudroyé. « Écoutez-moi, Paul Caillé Ponthieu, écoutez-moi bien. Vous me faites perdre mon temps. Nous allons donc arrêter cette séance maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous signer les papiers et toutes les décharges dont vous avez besoin pour retourner sous la mitraille. Oui, je vais faire cela pour vous. Je vais vous renvoyer au front puisque c'est ce que vous voulez. Mais comme ma conscience professionnelle est aussi rigoureuse que la vôtre, tenez. » Elle a remis ses lunettes, a tapoté sur son ordinateur, s'est penchée à récupérer l'ordonnance qui s'échappait d'une imprimante et me l'a tendue. « Voilà, apte au service. Vous trouverez une pharmacie sur votre gauche en sortant d'ici. Pour le règlement, voyez avec le secrétariat. Au revoir. » Elle s'est levée pendant que je lisais sa prescription. Genouillère, rotulienne, sidistable, génue multipliée par un. Elle était debout. Elle me regardait. J'étais assis. Je regardais mes genoux. Je commençais à avoir mal à la tête. J'avais envie de pleurer. J'avais soif. J'avais chaud. J'ai commencé à lui parler uniquement pour ne pas pleurer. Je préférais encore ouvrir cette vanne-là plutôt que celle-ci. Je préférais encore crever la bouche ouverte plutôt que de verser la moindre larme devant cet inconnu. J'ai donc ouvert la bouche et j'ai prononcé votre prénom. Et puis plus rien. Elle ne disait rien non plus. Par respect, je crois. Elle me voyait danser d'un pied sur l'autre tout au bord du plongeoir et se retenait de me pousser dans le dos. C'était gentil. Au bout de deux ou trois longues minutes, elle m'a quand même donné une pichenette. « Vous souffrez d'acouphènes ? Vous avez des problèmes d'audition ?»« Non, » ai-je ri en me noyant dans mes larmes. « Non. Louis, mon ami Louis. » Le bouillon. Le gros bouillon. Ne bougez pas. Elle est sortie de son bureau et est revenue en me tendant un rouleau d'essuie-tout. Je suis désolé, je n'ai que ça. Merci. Elle s'est assise dans le fauteuil à côté de moi tandis que j'absorbais mon visage. Silence. Ensuite, elle m'a parlé comme il fallait qu'elle me parlât. Elle ne m'a pas dit « Oui, bien sûr, Louis, donc, Louis, votre ami, vous disiez, comme c'est intéressant. Mais encore? Mais comment? Mais blablabla, blablabla, et vous dans tout cela ?» Non. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a annoncé d'une voix calme. « Mon prochain rendez-vous arrive dans 45 minutes. Que fait-on ?» Elle m'a parlé procédure. Agenda, efficacité, elle m'a replacé en terre inconnue. J'ai donc parlé de vous pendant 45 minutes. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Mais j'ai dû parler de cette façon que vous aviez d'être à la fois si dense et si volatile, d'être absolument ici et en même temps toujours un peu ailleurs, d'être à la fois si généreux et si pince. De tout ce que vous aviez fait pour moi et de la violence avec laquelle vous m'avez claqué dans les doigts, de ces adieux qui m'avaient été confisqués, de votre manque de confiance en moi, en vous, en notre amitié. De cette méchante impression que je ressassais, que je remâchais sans cesse d'être passé totalement à côté de vous. De vous avoir loupé. De vous avoir trahi. De m'être trahi. D'avoir été nul. D'être nul. Et aussi que j'étais fils unique. Que j'avais probablement projeté sur vous l'image d'un frère idéal. Que je vous avais rêvé, inventé, fabriqué. Que ce n'était pas vous que je pleurais, mais mon bel hologramme. Que je pleurais des tas de morts, en vérité. La vôtre, celle de notre amitié, celle de mon père, celle de l'oncle si gentil que vous étiez devenu pour mes filles, celle de ma paternité, celle de ma filiation, celle de mon enfance, de ma jeunesse et de ma propre vie dont on m'avait finalement privé aussi. Et puis j'ai parlé de vos mystères, de vos absences, de vos silences et de ce que m'inspirait cette vision de vous le matin, quand vous rentriez selon toute vraisemblance d'un monde de liberté, teint, tinage, tandis que j'allais, moi, me claquemurer dans une voiture longue et noire comme un corbillard, et qui m'emmenait prendre mon service auprès d'un monde ultra-libéral et liberticide, que je défendais du mieux que je pouvais, alors qu'il était en train de ruiner en quelques années les efforts conjugués de 4 générations d'hommes et de femmes de bonne volonté, patrons y compris. « Oui, lui répétai-je, c'est cette image qui me hante. Cette vision de lui, à l'aube, de lui si beau, mais rongé par la nuit, par la maladie, par la solitude, par... je ne sais pas. On dirait Paul Morand interpellant Proust. Je n'ai pas relevé. Je préférais encore passer pour un pédant que pour un crétin. Elle ne s'est pas laissée berner. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant un long moment, le temps de me faire comprendre que j'étais, eh oui, et si, hélas, et la preuve en était ces longues secondes même, un pédant de la pire espèce, un crétin de pédant. Puis, ceci étant entendu, elle a approché son visage du mien et a ajouté de sa belle voix grave. « Proust, à quelle route allez-vous donc la nuit pour en revenir avec des yeux si las et si lucides ? Et quelle frayeur à nous interdite avez-vous connue pour en revenir si indulgent et si bon ?»
Silence.
Elle. C'était un peu cela, non ?
Moi.
Elle. Vous ne dites rien.
Je ne disais rien.
Elle m'a regardé encore un moment, elle s'est levée, elle m'a fait signe d'en faire autant, et m'a raccompagné jusqu'à la porte. Vous verrez avec le secrétariat si vous voulez reprendre rendez-vous ou pas, mais en attendant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important.
Je ne l'écoutais plus.
« Vous m'écoutez ? »
reprit-elle.
« Pardon, oui. Les gens vivent, les gens ont vécu et les gens meurent. C'est ainsi. Vous m'écoutez toujours, là ? » ?»«
Oui. »
Les gens vivent et la seule chose dont on se souvienne après leur mort, la seule chose qui compte, la seule chose qui reste, c'est leur bonté. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Plutôt que de ressasser ce que cet homme ne vous a pas donné, racontez sa bonté.
À qui ?
À vous ? À moi, si vous revenez, à lui, si vous ne revenez pas.
Mais il est mort.
Il est mort.
Non, bien sûr que non. S'il était mort, vous l'auriez enterré déjà.
Il la connaissait, sa bonté.
Il la connaissait.
Vous en êtes sûr ?
Silence.
Je ne sais pas écrire. Je ne vous ai pas dit d'écrire, je vous ai dit de raconter. Faites exactement comme avec moi tout à l'heure, mais en vous adressant à lui. Comme s'il était assis en face de vous. Ne cherchez pas plus loin. Parlez-lui. Parlez-lui et dites-lui au revoir. Je ne suis pas aussi autoritaire d'habitude, mais là je sais que vous ne reviendrez pas et je ne veux pas vous renvoyer à l'ennemi, c'est-à-dire à vous-même, sans un laisser-passer en poche. « Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur et laissez-le partir. »« Tout cela me paraît bien ésotérique, » me suis-je défendu en foirant un sourire.
« Vous êtes vraiment médecin ?»«
Non, mais... » Ce rire réussit. « Vous ne le direz à personne, n'est-ce pas ?»« Disons que je m'adapte. Et vous, cher dossier numéro 1714, vous n'avez rien à faire dans un service de psychiatrie. Vous avez juste besoin de vous exprimer. » « Vous vous cassez la tête, Paul. Vous vous cassez la tête tout seul. Arrêtez ça. Faites simple. Dites les choses. Bon, je vous laisse, j'ai du travail. » Je ne suis jamais revenu la voir. On vient de me prévenir qu'un chauffeur attendait en bas. Je dois m'habiller. Je dois partir.
« Louis, vous avez vu ? Je suis retombé sur mes pieds.
On m'a annoncé que vous étiez mort. On m'a demandé de vous enterrer. Moi-même, j'ai dit tout à l'heure que j'allais jeter les cendres sur les braises avant de quitter le camp et... Et non. Je ne vais pas quitter le camp. Je n'ai aucune envie de vous enterrer. Aucune. Je n'ose pas écrire « Je vous embrasse ». Je n'ose pas écrire « Je vous serre dans mes bras ». Allez, j'y vais.